Nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. C'est maintenant le moment de jaser sport business avec Ray Lalonde. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Ray, on s'est parlé lors des dernières semaines à quelques reprises du fait que le Canadien se retrouvait dans une situation où il faisait de la promotion pour ce qui est des billets de saison, de la liste d'attente pour les billets de saison et tout ça, que c'était peut-être pas aussi glorieux que c'était il y a, mettons, une dizaine d'années. Qu'est-ce que cette, excusez l'expression anglophone, qu'est-ce que cette run en série va faire pour la business du Canadien à partir de l'automne prochain, lorsque viendra le temps d'ouvrir les édifices à plus de spectateurs?
On a beaucoup d'attentes par rapport à l'an prochain parce que la pandémie a gardé les gens confinés, Jérémy. Fait qu'il y a une anxiété, il y a une nervosité, il y a une ambition de retourner dans des rassemblements publics, de groupes, des événements sportifs, des concerts, des événements culturels et artistiques. Alors, déjà, là, ça veut dire que c'est un premier critère important en ce qui a trait au retour à la normalité, c'est de rentrer au Centre Bell puis voir une foule pleine de 21 000 spectateurs et de pouvoir trouver un moment de plaisir agréable à regarder jouer notre équipe préférée. Alors ça, déjà, là, ça comptait pour beaucoup. Mais c'est certain que lorsque ton équipe performe en denti comme cette saison, c'est rien pour encourager l'espoir d'un jour meilleur à l'avenir, puis les gens sont plus prudents maintenant avec leur argent, avec leurs dépenses discrétionnaires, avec leurs dépenses loisirs. Fait que là, le renouvellement de billets de saison qui peut te coûter entre 10 et 15 000 $, des loges qui peuvent valoir entre 125 et 250 000 $, ce que ça implique une dépense de divertissement pur et simple, c'est beaucoup d'argent absolu sorti de tes poches. Fait que quand ton équipe ne performe pas, malgré ton ambition de retourner vivre un peu, c'est certain que tu as des hésitations. Une poussée comme celle-ci efface un peu la saison régulière, efface un peu le souvenir de jours difficiles, puis donne aux gens cette espèce d'envie là, de suivre une équipe qui nous donne de l'espoir qu'on va gagner, qu'on s'approche du but, de voir arriver des jeunes comme Caulfield, puis Kotkaniemi, puis Suzuki, puis de voir performer Price comme ça, on a tous envie de dire, ben oui, je vais en refaire partie. Parce que les gens se nourrissent d'événements sportifs de tout genre qui donnent de la passion, de l'émotion, de l'énergie. Les gens carburent avec ça, Jérémy, parce que ça les excite d'être près d'une équipe gagnante ou aspirante.
Ben, c'est sûr. On n'a pas été gâtés. Ben, c'est ça, exactement. On n'a tellement pas eu dans les dernières années. Mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer pour le Canadien à ce niveau-là. Mais tu sais, ce qui est particulier dans le monde du hockey, c'est que on peut connaître une excellente poussée en série cette année et l'année prochaine, ça peut être une autre saison régulière pénible. On le sait.
T'as raison, jamais
dans le monde. Puis les compagnies veulent pas se retrouver avec des loges où à la fin de l'année, t'es pas capable de trouver du monde pour y aller parce que tu sais
c'est une bonne année, là. C'est le sport, et après un échec, tu peux rapidement tourner la page, repartir sur un canevas blanc, recommencer un peu le processus. Puis les gens sont beaucoup plus tolérants et patients qu'on pense. Ils sont impatients dans le sens que ça les frustre de voir des séries de défaites, mais ça prend que quelques victoires pour redonner de l'espoir pour une Coupe Stanley, pour un championnat. Ça prend pas grand-chose cette année, honnêtement.
Ben
ça a pris le match 5 à Toronto. Le match 5 à Toronto leur a fait croire qu'il y avait peut-être un match 6. Le match 6 à Montréal, première foule. Puis là, ça leur a fait croire qu'on a le momentum de notre côté. Hey, Jérémy, ça s'est accumulé comme un tas de briques là, sur un immeuble qui est construit.
Écoute, là, il y a deux semaines, là, Dominique Ducharme ne revenait pas, puis Marc Bergevin non plus. Là.
Absolument.
Puis là, on est sûr, puis c'est garanti qu'ils vont revenir.
Parlons
un petit peu de l'Euro, si tu veux bien. Ça a débuté hier dans une formule très différente. On a éparpillé les matchs dans plusieurs pays. C'est plus ce qu'on a vécu là, jusqu'à il y a 7-8 ans. 9-10 ans, là, où fallait rentrer dans un pays, fallait construire 12 nouveaux stades, mis à jour, puis c'était des stades qui, à un moment donné, devenaient aussi désuets. Qu'est-ce que tu penses de la formule de l'Euro de cette année en termes de sport business, et est-ce que ça peut, sur le long terme, devenir une nouvelle façon de travailler?
C'est certain que c'est plus complexe d'aller dans 11 villes partout en Europe, de Budapest jusqu'à Munich, jusqu'à Londres pour la finale. Honnêtement, c'est plus compliqué, surtout en temps de pandémie. Cependant, ça parle euro, ça parle du continent, ça parle de la folie culturelle qui existe pour le foot en Europe. et comment ça s'est vraiment cimenté dans l'esprit des gens à un jeune âge que c'est le sport majeur pour eux. Le monde entier regarde aller l'Europe quand on parle de football, de soccer.
C'est
alors,
sûr.
Là-dessus, là, Jérémy, on n'a pas le choix que de dire que c'est curieux, c'est intriguant, c'était pour l'anniversaire, c'est une bonne chose, puis qu'on fasse l'essai, puis on va devoir nébuleusement traverser frontière à frontière. Il n'y aura pas autant de spectateurs dans certains endroits que d'autres.
C'est vrai.
Pour les spectateurs qui voyagent, c'est plus complexe, bien sûr, parce que leur équipe préférée peut avoir à se déplacer dans différents pays. Fait que ça, au fur et à mesure que le tournoi va avancer, Jérémy, ça peut être plus problématique cette année.
Cette année, oui.
Mais le concept est vraiment bon de pouvoir te promener à travers plusieurs villes. Ça disperse les coûts, ça disperse l'organisation, ça permet de rayonner plus large. Non, mais il y a plein d'avantages au niveau économique, au niveau commercial, pour les audiences télé, pour les revenus télé, pour aussi l'espèce d'implication d'un continent complet. Tu sais, j'ai vécu en Europe pendant 8 ans, là, Jérémy, je te le dis. Puis ma job, c'était de voyager d'Israël jusqu'en Grèce, jusqu'aux Pays-Bas, pour faire la promotion de la NBA. Tu sais, je comprends comment le soccer est important pour eux. J'étais là en Coupe du Monde en 98. C'est gigantesque, ces événements sportifs comme ça. Alors, moi, j'ai vraiment hâte de voir l'effet total, parce que, oublie pas, ça change quand tu vas dans un stade d'un autre pays, tu as une ambiance différente, forcément.
C'est
d'autres,
sûr.
D'autres habitudes, d'autres cultures. Alors ça, c'est une excellente idée de le faire ça comme ça cette année.
Et écoute, tu sais, je veux dire, on sait déjà que la Coupe du Monde 2026 va se jouer dans 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a encore 24 villes. En fait, il y a 23 villes candidates maintenant parce que Montréal n'y est plus. Malheureusement, la seule ville qui s'est retirée, qui était quasiment garantie d'avoir des matchs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on sait déjà que ça va se passer dans 3 pays sur le continent au complet. Est-ce que ça peut être une formule aussi qui éventuellement pourrait être intéressante pour les Jeux olympiques? Écoute, je me souviens de la dernière fois que j'étais allé à Athènes, en Grèce, de voir les installations désuètes de cette façon-là. C'était d'une tristesse épouvantable. Il y a des villes qui ont déjà des installations. Il y a des villes qui sont comme pas trop loin l'une de l'autre. Je pense à Montréal et quoi, Plattsburgh, qui ont déjà eu les Jeux olympiques, qui ont déjà certaines installations. Est-ce que ça aussi, c'est une formule vers laquelle les Jeux olympiques doivent absolument regarder?
Moi, j'ai de la difficulté à croire, Jérémy, qu'on n'est pas là déjà. Honnêtement, là, je suis étonné. Je trouve que bravo à la UEFA d'avoir été de l'avant avec ce modèle-là pour l'Euro. Dommage encore que les Jeux olympiques et le Comité international olympique ne réussissent pas à réagir de façon proactive et progressive. Bon, tu vas me dire, bien sûr, les Jeux sont déjà établis pour 2024 à Paris, puis 2028 à Los Angeles. C'est vrai. Fait que là, on a un peu cette certitude-là pour les Jeux d'été. Mais quand tu vois ce qui se passe à Tokyo, t'sais, on est à 35-40 jours des Jeux, Jérémy.
Ouais, ouais.
Écoute, ils ont mis à date au moins 20 milliards de dollars US.
C'est malade.
Dernier sondage, cette semaine, 83% des Japonais veulent annuler. Là. On n'est plus en train de dire peut-être remettre à plus tard. Non, annuler les Jeux. Ça, c'est les locaux. Il n'y a pas de ferveur. Là. Ça va être un événement vraiment différent cette année. Ce qui est dommage pour le but principal, l'objectif ultime, c'est l'athlète. Parce qu'ils ne vivront pas les Jeux de la même façon. Puis oui, il va y avoir la qualité des performances jusqu'à un certain degré. Ils n'ont pas pu tous s'entraîner avec les mêmes conditions que d'habitude. Les qualifications n'ont pas eu tout lieu de la même façon qu'auparavant. Ça a été perturbé à cause de l'arrêt puis le confinement. Ils n'ont pas eu accès aux mêmes installations en préparation. Tout ça pour dire que tu n'auras pas les foules, tu n'auras pas l'ambiance festive avec l'esprit olympique de participation, de fraternité, qui est vraiment essentiel à un succès olympique pour avoir été à 2 Jeux. Je peux te le dire, Jérémy, que ça va être différent. Puis en plus, c'est un public local qui est réticent, qui est nerveux à cause de la pandémie.
Ouais.
Tu sais, ils n'ont pas de degré de vaccination comme nous, on roule au Québec à plein régime. Puis aux États-Unis, ils ont presque fait le pays.
Même ici, Ray, hier, j'étais dans la petite Italie pour le match Italie-Turquie. Là. Ray, il n'y avait pas 10% du monde qui est là d'habitude. Je pense que les gens ont encore, tu sais, ils ont encore peur. Il y a quand même certaines craintes. Je voulais t'amener sur un dernier sujet avant qu'on se quitte. Hier, là, je regardais juste pour le plaisir là, les droits de télédiffusion des ligues de soccer européennes, des 5 plus grandes ligues. J'aimerais avoir ta réaction. Écoute, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est malade de voir combien l'argent rentre. La ligue anglaise, c'est 3,5 milliards de dollars par année. Oui. Qui rentre pour regardez la Premier League. En Espagne, 2 milliards. En Italie, 1,3 milliard. Même chose pour l'Allemagne. Et là, il y a la France dans le top 5 qui est à 743 millions. Mais on sait que tout est à renégocier en France, en Allemagne et en Italie. Donc, on risque de faire remonter encore une fois la moyenne. C'est vrai. C'est rendu fou là, avec les Amazon puis DAZN. Puis ils ont tellement l'embarras du choix de négocier à droite puis à gauche avec tellement de réseaux que... On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Là.
Il n'a pas de limite, Jérémy, pour plusieurs raisons. Le sport de compétition professionnelle, c'est un divertissement qui est essentiel et les gens consomment. Et tant qu'il y a une foule pour consommer au rendez-vous, il va y avoir des gens qui vont payer pour ces droits-là. Parce que ces gens qui payent pour les droits, les diffuseurs mondiaux, que ce soit Sky Sports pour la Premier League en Angleterre et ainsi de suite, ben ces gens-là, Jérémy, ils savent qu'ils vont se tourner rapidement sur de multiples plateformes et être capables de transposer ça vers des annonceurs, vers des gens qui cherchent encore des moyens traditionnels. Le sport égale annonceur. C'est un peu étrange de dire ça. Je suis pas vraiment à l'aise de le dire comme ça, mais pub égale sport.
Ben oui.
Puis le problème qu'on a, c'est que ça devient comme, à un moment donné, ça devient envahissant.
Ah,
trop
c'est
de publicité dans c'est nos
sûr.
Vies. À chaque fois qu'on clique sur une vidéo, à chaque fois qu'on regarde sur une glace, de plus en plus de logos se sont infiltrés dans la glace.
Les logos sur la glace me dérangent pas. Sur la bande, ça me dérange pas. Dans les astrales, ça me dérange pas. Les pubs virtuelles, même sur la baie vitrée, ça me dérange pas. Moi, c'est quand tu rapetisses l'écran durant le match pour me faire une pub à côté. Ça, là,
non, mais c'est offensif.
Je suis fou.
Non, mais c'est offensant, pardon, de y aller comme ça. Mais Jérémy, peu importe. Peut-être que toi, ça te dérange pas, la pub dans la glace. Mais d'autres, finalement, c'est une invasion complète de ce qu'on voulait comme produit authentique et pur.
Ouais.
On oublie ça, là. Mais je reviens à ce que tu disais sur Amazon. Amazon a décidé cette année de dépenser plus d'un milliard de dollars par année pour les 11 prochaines années avec la NFL pour un seul match par semaine.
Alors,
je veux juste
fou,
que
tu
penses à ça, là.
Écoute, la NFL, c'est la ligue encore dans le monde qui fait plus d'argent avec
les rendus. Ils sont rendus à plus d'un 11 milliards par année.
C'est débile.
Puis c'est un sport généralement nord-américain.
T'as raison. On joue pas au football.
Ouais, puis on le consomme pas en Asie comme on consomme la Premier League, même aux États-Unis. Donc, ces chiffres-là que tu as mentionnés sont très impressionnants. C'est ça qui fait en sorte qu'on paye des gros clubs, des grosses franchises et des grands joueurs d'énormes salaires.
Excellent.
Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a pas de raison de croire à court terme que ça s'en va en diminuant, parce qu'il y a une demande. Puis quand tu as une demande, on continue à payer le prix pour l'avoir.
Ray, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
Salut, Jérémy. Merci à toi.
Au retour de ceci, Guillaume Latendresse.